Questions et réponses. Beaucoup de personnes dans ce monde s'intéressent vivement à l'habitation du Saint-Esprit, et c'est pourquoi elles ont posé des questions par le biais d'Internet et de divers médias. J'ai sélectionné quelques-unes de ces questions et les ai incluses dans ce livre. Question 1. Je crois en Jésus, et je crois avoir reçu la rémission de mes péchés. Je crois aussi que le Saint-Esprit habite dans mon cœur. Je sais qu'une personne sauvée est le temple de Dieu. Chaque fois que je tombe et que je pèche, le Saint-Esprit me convainc, me pousse à confesser mes péchés et me pardonne, rétablissant ainsi ma relation avec Dieu. J'ai appris que si je ne fais pas cela, Dieu me corrigerait. Alors, est-il vrai que le Saint-Esprit n'habite en nous que si nous confessons et recevons le pardon de nos péchés chaque fois que nous péchons? Réponse : absolument pas. L'habitation du Saint-Esprit ne dépend pas de la manière dont une personne agit, qu'elle le fasse bien ou mal. Elle ne dépend pas non plus de la volonté ou de l'intention humaine. Alors, comment la véritable habitation du Saint-Esprit s'accomplit-elle? Le Saint-Esprit n'habite pas dans une personne uniquement lorsqu'elle confesse ses péchés et en reçoit le pardon chaque fois qu'elle pèche, mais c'est lorsqu'elle croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit et reçoit l'effacement de tous ses péchés une fois pour toutes que le Saint-Esprit vient habiter en elle. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans le cœur de ceux qui ont ne serait-ce qu'un seul péché dans leur cœur. Cependant, beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit n'habite en eux que lorsqu'ils confessent leurs péchés et cherchent à recevoir le pardon de leur côté, et que s'ils ne le font pas, le Saint-Esprit n'habitera pas en eux. C'est là une pensée véritablement erronée. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, non pas parce qu'ils avaient prié et ainsi reçu l'habitation du Saint-Esprit, mais parce qu'ils avaient déjà reçu l'effacement de leurs péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est une chose que nous devons absolument nous rappeler. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui vient dans le cœur des justes qui sont devenus saints en recevant la rémission des péchés par la foi. Dans la Bible, le mot « saint » signifie être séparé du péché. Du point de vue de Dieu, il ne s'agit pas d'une véritable rémission du péché si une personne essaie de confesser ses péchés et de demander pardon chaque fois qu'elle pèche pour les faire disparaître. Selon le plan de salut établi par Dieu, Jésus-Christ a été baptisé par Jean et a versé son sang sur la croix, et à ceux qui croient cela, la rémission complète des péchés est accordée, et en même temps, le Saint-Esprit est donné comme un don de Dieu. Cependant, beaucoup de gens s'efforcent de recevoir le Saint-Esprit par leurs propres moyens, parce qu'ils n'ont pas reçu dans leur cœur la rémission complète des péchés. Cependant, le véritable Saint-Esprit ne vient pas lorsqu'une personne confesse les péchés qu'elle a commis, mais lorsque l'on croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné et que l'on reçoit la rémission des péchés, le Saint-Esprit vient automatiquement. C'est la foi que nous devons avoir pour recevoir l'habitation du Saint-Esprit devant Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas par un effort ou une œuvre accomplie de la part de l'homme. Le Saint-Esprit vient lorsqu'une personne croit dans son cœur à l'évangile de l'eau et de l'esprit et reçoit l'effacement complet des péchés. L'effacement des péchés s'accomplit en croyant dans son cœur que le Seigneur a déjà porté tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean dans le fleuve du Jourdain il y a 2000 ans. Nous devons savoir que le Saint-Esprit ne peut habiter que dans le cœur de celui qui a une telle foi. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans le cœur de celui qui a encore du péché. C'est une vérité éternelle et immuable. Si une personne cherche l'habitation du Saint-Esprit par des prières de confession pour chaque péché au lieu de passer par le véritable évangile, elle ne pourra jamais recevoir le Saint-Esprit. Cela ne fait que révéler que, même s'ils croient en Jésus, il y a encore du péché dans leur cœur. C'est Satan qui nous condamne. Romains 8 verset 1 déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Même si quelqu'un affirme devant Dieu avoir reçu la rémission des péchés et clairement reçu l'habitation du Saint-Esprit, s'il n'a pas reçu l'effacement complet de tous ses péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il demeure encore dans ses péchés. Par conséquent, pour recevoir l'habitation du Saint-Esprit, il faut connaître correctement l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous le désirez, veuillez lire le livre 1 de la série l'Évangile de l'eau et de l'esprit, du serviteur de Dieu Paul C. Jong, intitulé « Êtes-vous vraiment un accent aigu des nouveaux d'eau et d'esprit ?» Question 2. Le Saint-Esprit demeure-t-il toujours dans ceux qui sont nés de nouveau par l'Évangile de l'eau et de l'esprit, ou vient-il seulement en nous lorsque nous prions ou demandons de l'aide, tandis qu'il se déplace autour de nous ? Réponse. Le Saint-Esprit est le Consolateur, c'est-à-dire l'Esprit de vérité, que Dieu a envoyé à tous les justes qui sont nés de nouveau en croyant en l'eau et en l'Esprit, après que Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, est mort sur la croix, est ressuscité et est monté au ciel, Jean 15 verset 26. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 1 verset 13, « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Le Saint-Esprit demeure dans le cœur des justes qui ont reçu la rémission des péchés en croyant en Jésus-Christ venu par l'eau et par le sang, et il les scelle comme enfants de Dieu. Dans Jean 14 verset 16, le Seigneur a dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Les disciples de Jésus savaient et croyaient que Jésus avait pris sur lui tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes en étant baptisés par Jean, et c'est ainsi qu'ils ont reçu la rémission des péchés. C'est pourquoi Jean-Baptiste s'est écrié, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde », Jean chapitre 1 verset 29. Le péché que le Seigneur a porté est le péché du monde, et cette expression « péché du monde » désigne tous les péchés que tous les êtres humains commettent depuis le commencement jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur a pris sur lui tous les péchés du monde une fois pour toutes, est mort sur la croix, et est ressuscité afin de nous rendre justes pour toujours. Hébreux 10 verset 12 à 14 déclare « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Le Seigneur a été baptisé une fois, est mort une fois sur la croix, et est ressuscité afin de nous rendre justes pour toujours, sans péché. Par le Seigneur, nous avons été purifiés de nos péchés une fois pour toutes et sommes devenus enfants de Dieu, et tant que nous n'abandonnons pas cette foi, ce fait ne change pas. Ceux qui sont rendus justes par la foi n'ont aucun péché pour l'éternité en Jésus-Christ. Bien que nous soyons faibles et que nous commettions inévitablement des péchés, le Seigneur a déjà ôté tous ces péchés aussi, c'est pourquoi les justes n'ont aucun péché pour l'éternité. Par conséquent, les justes ne peuvent jamais redevenir des pécheurs. Le Saint-Esprit demeure toujours dans le cœur des justes qui ont été sanctifiés pour l'éternité. Nous sommes imparfaits et nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher, mais si nous redevenions pécheurs chaque fois que nous péchons, alors le mérite de Jésus-Christ, qui nous a rendus justes pour toujours, serait rendu vain, et le Seigneur devrait porter nos péchés et mourir de nouveau. C'est un péché qui insulte le Saint-Esprit en faisant souffrir Jésus à plusieurs reprises. C'est pourquoi le Saint-Esprit entre dans le cœur des justes qui sont nés de nouveau et ont reçu la rémission des péchés une fois pour toutes en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et il y demeure toujours jusqu'au retour du Seigneur. L'apôtre Paul a dit, « Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » 2 Corinthiens 6 verset 16. Le Saint-Esprit demeure dans le cœur des enfants de Dieu sanctifiés. Le mot « demeure » ne signifie pas que le Saint-Esprit se déplace autour de nous et entre en nous seulement lorsque nous prions et l'invoquons, mais qu'il « vit toujours en nous ». Le Saint-Esprit vit constamment dans ceux qui sont nés de nouveau, il leur enseigne toutes choses et les aide à comprendre la parole de Dieu, Jean 14 verset 26. Par conséquent, toute personne qui n'a pas l'habitation du Saint-Esprit n'est pas une personne de Dieu, Romains 8 verset 9. Le Saint-Esprit demeure en ceux qui sont purs et sans péché, leur enseigne toutes choses, et rend témoignage qu'ils sont enfants de Dieu. Le Saint-Esprit ne demeure pas autour de nous pour ensuite entrer en nous à la suite de nos efforts, mais il demeure toujours dans le cœur des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, beaucoup de gens, parce qu'ils ne connaissent pas l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et c'est encore de recevoir l'habitation du Saint-Esprit tout en restant dans un état où il y a encore du péché dans leur cœur. En conséquence, ils pensent que s'ils prient avec ferveur et font des efforts à travers des prières de repentance, le Saint-Esprit viendra en eux, et que s'ils pêchent de nouveau, il les quittera. Mais cela est la croyance de ceux qui n'ont pas encore reçu l'habitation du Saint-Esprit. Ceux qui ont la vraie foi croient que l'habitation du Saint-Esprit est un don de Dieu reçu par la rémission des péchés. Vous devez abandonner vos propres pensées et revenir à la foi qui croit selon la parole de Dieu. Question 3. Mes deux parents étaient chrétiens nés de nouveau même avant leur mariage. Je suis né d'eux et j'ai vécu jusqu'à présent une vie de foi. Je croyais que le Saint-Esprit était en moi depuis ma naissance. Cependant, mon cœur est confus parce que je ne connais pas clairement la parole au sujet de l'habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient-il réellement dans le cœur d'une personne seulement lorsqu'elle est née de nouveau par l'eau et par l'Esprit ? Réponse : oui, c'est exact. Toute personne doit recevoir la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'Esprit afin de recevoir le Saint-Esprit comme un don. La Bible dit que l'eau est le signe du salut. Cette eau fait référence au baptême que Jésus a reçu de Jean, Matthieu 3 verset 15. Pour que quelqu'un puisse recevoir le Saint-Esprit, il doit d'abord connaître la signification du baptême que Jésus a reçu de Jean et recevoir le lavage complet de ses péchés. Galates 3 verset 27 déclare « Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Ici, « qui avez été baptisés en Christ » ne fait pas référence au baptême que nous recevons, mais signifie qu'il faut comprendre et croire la raison pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean, et ainsi avoir la foi qui reçoit la rémission des péchés. Chaque personne naît dans ce monde avec une chair portant le péché. La Bible dit dans Romains 5 verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Cela signifie que tous les êtres humains dans ce monde naissent pécheurs dès la naissance, ayant hérité du péché d'Adam et Ève. C'est pourquoi il est dit dans le psaume 51 verset 5, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et dans Ésaïe chapitre 1 verset 4, il est écrit « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. » Cela signifie que les êtres humains sont, dès leur naissance, une semence de péché. Ainsi, tous les hommes dans le monde naissent pécheurs, ayant hérité des péchés de leurs parents. Autrement dit, notre chair est la semence du péché, et au cours de notre vie, nous ne pouvons porter que le fruit du péché. Par conséquent, penser qu'un enfant a aussi reçu le Saint-Esprit simplement parce que ses parents charnels sont nés de nouveau est une croyance religieuse et superstitieuse. Une telle croyance cherche à recevoir le Saint-Esprit selon ses propres pensées, et dans une telle foi, l'habitation du Saint-Esprit est impossible. Par conséquent, tous les êtres humains doivent croire en l'évangile de l'eau et de l'Esprit donné par Jésus. Ce n'est qu'ainsi qu'ils peuvent recevoir le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est un don accordé par Dieu. Le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, a été baptisé par Jean et a ainsi pris sur lui tous les péchés du monde, en recevant tout le jugement pour ses péchés sur la croix, il a rendu juste ceux qui croient en lui. C'est là le plan et la volonté de Dieu pour l'humanité, et c'est à ceux qui croient selon cette volonté que Dieu accorde l'habitation du Saint-Esprit. Toute personne naît avec le péché. C'est pourquoi ce n'est qu'en croyant à l'évangile du baptême et du sang de Jésus-Christ, en recevant la rémission des péchés et en étant sanctifié, que l'on peut recevoir le Saint-Esprit comme un don. Ainsi, chacun doit se souvenir et croire à la parole de Dieu qui dit que le Saint-Esprit entre dans le cœur d'une personne seulement lorsqu'elle est née de nouveau d'eau et d'esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas selon les conditions ou les efforts de celui qui le reçoit. Cela est déterminé par la fidélité de celui qui a fait la promesse. Autrement dit, le Saint-Esprit n'habite pas en nous en fonction des actes humains ou des accomplissements spirituels. Recevoir l'habitation du Saint-Esprit s'accomplit par la foi, conformément à la promesse de la parole de Dieu. La volonté de Dieu était d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, sur cette terre, de le faire baptiser par Jean et de le faire mourir sur la croix, afin de sauver toute l'humanité du péché du monde et de permettre l'habitation du Saint-Esprit. Seuls ceux qui, selon cette volonté, croient dans leur cœur à l'évangile de l'eau et de l'Esprit, sont sauvés de tous leurs péchés et rendus justes, peuvent recevoir l'habitation du Saint-Esprit. Par conséquent, croire que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit simplement parce qu'il est né de parents nés de nouveau est une croyance religieuse vaine et superstitieuse. C'est une tentative de recevoir le Saint-Esprit selon son propre désir, indépendamment du plan de Dieu. Sans foi en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, il n'existe aucun autre moyen pour les gens de recevoir l'habitation du Saint-Esprit dans leur cœur. Question 4. Je crois que le Saint-Esprit nous parle chaque jour. Même dans l'Église primitive, les disciples de Jésus accomplissaient des miracles et exerçaient la puissance. Je crois que le Saint-Esprit, qui agissait puissamment à cette époque, agit encore aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup de personnes de Dieu accomplissent toutes sortes de miracles au nom de Jésus, chassant les démons, guérissant les malades et amenant de nombreuses personnes à revenir à Jésus, et je crois que cela se fait uniquement par le Saint-Esprit. Sinon, quelle serait alors la différence entre le Saint-Esprit qui a puissamment agi dans l'Église primitive et celui qui agit aujourd'hui ? Dieu n'est-il pas le même hier, aujourd'hui et éternellement ? Réponse : Il n'y a aucune différence dans l'œuvre du Saint-Esprit entre l'Église primitive et aujourd'hui. La seule différence réside dans le fait que ceux qui accomplissent des miracles aujourd'hui croient ou non à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Pourquoi cela ? Parce que le Saint-Esprit de Dieu lui-même est le même hier et aujourd'hui, mais il y a une différence selon que l'on ait reçu ou non le Saint-Esprit avec la juste connaissance. Cependant, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens accomplir de grandes œuvres puissantes sans avoir la vraie connaissance de la Bible. Mais la seule manière de recevoir le Saint-Esprit présenté dans la Bible est par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, comme il est écrit dans Actes chapitre 2 verset 38, 1er épître de Jean 5 verset 2 à 5, et aussi dans 1er épître de Pierre 3 verset 21, « Cette eau était une figure du baptême, qui maintenant vous sauve. » Bien sûr, le Saint-Esprit habitait les apôtres de l'Église primitive et accomplissait de nombreux miracles, tels que la guérison des malades et l'expulsion des démons. Cependant, les apôtres ne faisaient pas ces choses pour de l'argent ni de façon bruyante comme certaines personnes aujourd'hui qui prétendent avoir le don de guérison. Les apôtres de l'Église primitive accomplissaient des miracles uniquement comme un moyen de prêcher l'Évangile. De plus, dans l'Église primitive, la guérison des maladies et l'expulsion des démons ne constituaient pas l'ensemble de l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'en était qu'une partie. Par conséquent, il est erroné et dangereux de penser que chaque fois que le Saint-Esprit agit, il doit nécessairement accomplir des guérisons, chasser des démons et faire parler les gens en langue. Nous ne devons pas croire aveuglément que tout phénomène visible est la puissance du Saint-Esprit. Nous devons plutôt être capables de discerner si la personne qui manifeste une telle puissance est véritablement un serviteur de Dieu ayant reçu l'habitation du Saint-Esprit. Même si quelqu'un chasse des démons, guérit des malades et parle en langue, si son cœur contient encore le péché et qu'il ne connaît pas ou ne croit pas en l'Évangile de vérité, alors l'esprit qui est en lui est un esprit démoniaque. Jésus a aussi dit dans Matthieu 7 versets 20 à 23, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Par conséquent, nous ne devons pas croire que manifester de la puissance est toujours le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit, mais nous devons examiner clairement si cette personne prêche l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et si elle a reçu la rémission complète des péchés et est devenue juste. C'est parce que le Saint-Esprit ne peut jamais habiter dans l'esprit d'une personne dont le cœur est rempli de péchés. le péché et le Saint-Esprit ne peuvent pas coexister. Dans l'Église primitive, la rémission des péchés était la preuve que le Saint-Esprit était venu, et le Saint-Esprit était le don de Dieu accordé à ceux qui avaient reçu la rémission complète des péchés. Cependant, même aujourd'hui, beaucoup de gens croient encore que, tant qu'une personne guérit les malades au nom de Jésus, parle en langue ou chasse des démons, cela doit forcément être l'œuvre du Saint-Esprit. Mais c'est là une idée véritablement erronée et dangereuse. Au contraire, nous devons discerner clairement si la puissance qu'il manifeste est exercée selon la vérité. Même si quelqu'un accomplit de nombreuses œuvres de puissance au nom de Jésus, s'il ne connaît pas et ne croit pas au véritable évangile de l'eau et de l'esprit, il est un faux enseignant. De telles personnes tuent de nombreuses âmes et exigent beaucoup d'argent pour satisfaire leur propre ventre. Par conséquent, toute œuvre accomplie par quelqu'un qui a du péché dans son cœur n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, mais celle d'un esprit malin. L'œuvre du Saint-Esprit qui s'est produite dans l'Église primitive et celle qui se produit aujourd'hui sont les mêmes, mais il existe une différence claire entre l'œuvre du Saint-Esprit manifestée chez ceux qui ont véritablement reçu le Saint-Esprit et l'œuvre mensongère d'un faux prophète. Question 5. Que fait le Saint-Esprit à notre époque? Réponse. À notre époque, le Saint-Esprit de vérité accomplit l'œuvre de révéler la vérité et la fausseté à travers la parole de Dieu. Le Saint-Esprit œuvre pour sauver les âmes qui périssent dans le péché au sein de cette époque troublée, en leur annonçant l'évangile de l'eau et du sang donné par le Seigneur. Nous devons reconnaître qu'au sein de la communauté chrétienne mondiale d'aujourd'hui, les œuvres des faux prophètes sont répandues. Ces individus, bien qu'ils abritent le péché dans leur cœur, s'adonnent à des actes trompeurs tels que le parler en langue, les tremblements, les visions, les fausses puissances, les faux signes et les prodiges. À l'humanité placée dans une telle condition, le Consolateur, le Saint-Esprit, accomplit l'œuvre de faire connaître le péché, la justice de Dieu et le jugement concernant tous les péchés de l'humanité, Jean 16 verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Le Saint-Esprit de vérité reprend les gens au sujet du péché. Devant Dieu, le péché, c'est de ne pas croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu a donné. Le Saint-Esprit réprimande ceux qui n'obéissent pas de cœur au bel évangile venu par le baptême que Jésus a reçu de Jean et par le sang versé à la croix, les déclarant pécheurs destinés à l'enfer. L'Esprit témoigne aussi aux hommes de la justice de Dieu, à savoir que Dieu a envoyé Jésus sur cette terre dans la chair et que, par le baptême qu'il a reçu de Jean, il a transféré tous les péchés du monde sur Jésus. Le Saint-Esprit aide ceux qui croient en Jésus à recevoir l'effacement complet de leurs péchés en croyant dans leur cœur à l'évangile de l'eau et de l'Esprit. De plus, le Saint-Esprit juge les péchés de ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu le Père et ne se soumettent pas à l'évangile de vérité. Au commencement, lorsque Dieu créa le monde par sa parole, le Saint-Esprit œuvrait aussi avec lui, faisant briller la lumière de la vérité afin que les cœurs vides et chaotiques des hommes puissent connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. De cette manière, l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit à notre époque consiste à témoigner et à enseigner au sujet du péché, de la justice de Dieu et du jugement concernant les péchés des hommes. Question 6. Le parler en langue n'est-il pas la preuve de l'habitation du Saint-Esprit? Comment pouvons-nous savoir si le Saint-Esprit demeure dans notre cœur? Réponse. Je vais répondre à la première question. Ce n'est pas parce qu'une personne parle en langue que cela signifie que le Saint-Esprit demeure en elle. Autrement dit, nous ne pouvons pas être certains que le parler en langue d'une personne soit l'œuvre du Saint-Esprit. En effet, même ceux qui sont possédés par des esprits mauvais peuvent parler en langue. Nous devons reconnaître que les démons peuvent aussi faire parler des gens en langue en se déguisant sous le nom de Jésus. Si le parler en langue est considéré comme une preuve de l'habitation du Saint-Esprit, il s'agit là d'une grave erreur biblique qui mène au péché de blasphème contre le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12 verset 30, il est écrit « Tous ont-ils le don des guérisons ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? Le Saint-Esprit est l'Esprit du Dieu Saint, et il ne peut jamais demeurer avec le péché, c'est pourquoi il n'habite pas dans le cœur d'une personne qui a du péché en elle. Par conséquent, au lieu de croire que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit simplement parce qu'il parle en langue, nous devons d'abord vérifier s'il a, selon la parole, la preuve que ses péchés ont été effacés par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si quelqu'un suppose vaguement avoir reçu le Saint-Esprit simplement parce qu'il a eu une expérience particulière comme le parler en langue, il tombe dans la ruse trompeuse de Satan, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10. En effet, le Saint-Esprit est un don de Dieu, non accordé à travers le parler en langue, mais donné à ceux dont les péchés ont été complètement effacés par la parole. Maintenant, je vais répondre à la deuxième question. Le Saint-Esprit est Dieu et l'Esprit de vérité. Par conséquent, le Saint-Esprit agit en accord avec l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Saint-Esprit n'agit pas selon la volonté ou les émotions humaines. Le Saint-Esprit œuvre pour aider les pécheurs à croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, enseigne la vérité aux justes, et travaille silencieusement avec eux pour prêcher l'Évangile, qui est la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit ne vient ni comme un feu ni accompagné de tremblements. Dieu donne le Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui sont nés de nouveau, ceux dont les péchés ont été effacés en entendant et en croyant au véritable Évangile de l'eau et de l'Esprit, afin de les sceller comme ses enfants et de les enseigner. Même si une personne juste est insuffisante, le Saint-Esprit témoigne dans son cœur qu'elle est parfaitement juste et sans péché à cause de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et l'aide à vivre par la foi sans tomber dans la faiblesse. Par conséquent, même si quelqu'un parle en langue, si le péché demeure encore dans son cœur, l'Esprit qui agit en lui n'est certainement pas le Saint-Esprit, mais l'Esprit de Satan. Si vous désirez que le Saint-Esprit habite dans votre cœur, croyez de tout votre cœur à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Alors, vous recevrez la bénédiction de posséder l'habitation du Saint-Esprit. Question 7. Les disciples de Jésus ont-ils reçu le salut par la rémission des péchés, puis reçu le Saint-Esprit, ou bien la réception du Saint-Esprit était-elle une expérience distincte, sans rapport avec la rémission des péchés? Réponse. Recevoir le Saint-Esprit n'est en aucun cas une expérience distincte sans rapport avec la rémission des péchés. À travers la Bible, nous pouvons découvrir que, avant que les disciples de Jésus ne reçoivent le Saint-Esprit, ils savaient et croyaient que Jésus avait enlevé les péchés du monde en recevant le baptême. 1 Épître de Pierre 3 verset 21, « Cette eau était une figure du baptême, qui maintenant vous sauve. » La rémission des péchés signifie le salut du péché, c'est-à-dire que le péché dans le cœur d'une personne a été retranché et éradiqué. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens ne comprennent pas le sens de la rémission des péchés donnée par le Seigneur. Les gens ne savent pas ce que signifie la rémission des péchés ni comment la recevoir. Même en croyant en Jésus-Christ, leur cœur reste encore rempli de péchés, ainsi, ils se condamnent eux-mêmes en disant « Je suis un pécheur » et croient à tort que le simple fait de croire en Jésus signifie qu'ils ont reçu la rémission des péchés. Il y a des preuves dans la vie de ceux qui ont reçu l'effacement complet des péchés. Cependant, s'il n'y a aucune preuve dans le cœur, à travers la parole, que les péchés ont été effacés, alors cette personne n'a reçu ni la rémission des péchés ni le Saint-Esprit, ce n'est qu'un sentiment de plénitude, s'illusionnant elle-même par ses propres émotions. Autrement dit, les expériences ou phénomènes visibles ne sont pas une preuve de l'effacement des péchés. Le diable lui aussi se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11 versets 14 à 15, et accomplit des signes et des prodiges pour tromper beaucoup de gens et les détourner du chemin de la vérité, Matthieu 7 versets 21 à 23. Une personne qui a reçu l'effacement complet des péchés a en elle-même un témoignage, car elle a cru à l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Comme preuve de cela, 1 Épître de Jean 5 versets 4 à 12 témoigne que Dieu a rendu témoignage à Jésus-Christ, venu par l'eau et par le sang. De plus, si quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ venu par l'eau et le sang, mais prêche ou croit en un autre Jésus, un autre esprit ou un autre évangile, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4, alors il n'est pas sauvé du péché, ne reçoit pas le Saint-Esprit, mais reçoit plutôt la malédiction de Dieu. Chacun doit croire en Jésus-Christ venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour être sauvé du péché. Aussi, Recevoir le Saint-Esprit n'est pas sans rapport avec l'effacement des péchés, mais y est absolument lié. Question 8. Que signifie recevoir le baptême du Saint-Esprit? Réponse. Nous devons comprendre la raison pour laquelle Jésus a reçu le baptême. Lorsque Paul apprit que les habitants d'Éphèse avaient seulement reçu le baptême de Jean, il leur rendit témoignage du baptême que Jésus avait reçu. En croyant à cela, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ et reçurent le Saint-Esprit dans leur cœur. En réalité, la nature du baptême de Jésus était différente de celle du baptême que Jean administrait aux gens. Le baptême que Jésus a reçu était un baptême pour le lavage des péchés, ce qui est directement lié à la réception du Saint-Esprit. Alors, quel était le baptême que Jean donnait? Jean criait : « Repentez-vous, race de vipères, détournez-vous de l'abandon de Dieu et du service des dieux étrangers, et revenez au vrai Dieu. » Ainsi, le baptême que Jean donnait au peuple était un baptême de repentance, destiné à les ramener à Dieu. Cependant, le baptême que Jésus a reçu de Jean avait pour but qu'il prît sur lui et porta tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême. C'est là la différence entre le baptême que Jésus a reçu de Jean et le baptême que les gens recevaient de Jean. Le baptême que Jésus a reçu avait pour but d'accomplir toute la justice de Dieu. Que signifie le fait que ce baptême ait accompli toute la justice de Dieu? Cela signifie qu'en étant baptisé, Jésus a pris sur lui tous les péchés de chaque personne, depuis Adam jusqu'à la fin de l'humanité. En d'autres termes, le baptême que Jésus a reçu de Jean est le baptême qui a accompli toute la justice de Dieu. Toute la justice que Dieu a accomplie pour l'humanité est la suivante. Dieu le Père a fait en sorte que son Fils reçoive le baptême donné par Jean, transférant ainsi tous les péchés de l'humanité sur lui, et il l'a fait crucifier afin qu'il subisse le jugement de ses péchés à leur place. Ensuite, il l'a ressuscité des morts, et par cela, Dieu a fait que tous ceux qui croient en cela soient sans péché. Voilà l'œuvre juste que Dieu a accomplie pour l'humanité. De cette manière, le baptême et le sang de Jésus sont le salut éternel qui accorde la rémission des péchés aux pécheurs et les conduit dans le royaume des cieux pour y vivre éternellement avec Dieu. C'est cela la justice et l'amour de Dieu, et le salut de l'effacement des péchés que Dieu accorde à l'humanité. Ce que nous pouvons comprendre ici, c'est que le baptême du Saint-Esprit a été accompli par le baptême que Jésus a reçu et par son sang versé sur la croix. Nous devons aussi être baptisés au nom de Jésus-Christ. La raison en est que nous devons recevoir le baptême comme une preuve que nous croyons que tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus lorsqu'il a reçu le baptême de Jean. Ainsi, la personne qui a reçu dans son cœur l'effacement complet des péchés par la foi dans le baptême de Jésus-Christ et dans son sang versé sur la croix doit être baptisée au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, selon l'ordre « Allez », faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu 28 verset 19, nous recevons le baptême comme preuve de notre foi. Jésus a reçu le baptême de Jean afin d'enlever les péchés de toute l'humanité, et puisque cette vérité nous permet de recevoir le Saint-Esprit, on l'appelle le baptême du Saint-Esprit. Question 9. Comment le Saint-Esprit se manifeste-t-il différemment dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? Réponse : Le Saint-Esprit est Dieu, le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Par conséquent, la nature divine du Saint-Esprit ne peut pas changer, que ce soit à l'époque de l'Ancien Testament ou à celle du Nouveau Testament. Cependant, il est vrai que le Saint-Esprit a agi différemment dans l'Ancien et le Nouveau Testament, conformément à la providence de Dieu pour sauver l'humanité. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu répandait le Saint-Esprit sur son peuple choisi d'une manière spéciale, leur permettant de prophétiser la parole de Dieu, de révéler la volonté de Dieu par des miracles, et d'accomplir l'œuvre de Dieu. Par exemple, Dieu choisit Samson et répandit le Saint-Esprit sur lui afin que la puissance de Dieu se manifeste, Juges 13 verset 25, chapitre 14 verset 19. Autrement dit, à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu répandait le Saint-Esprit de manière sélective et limitée. Cependant, dans l'ère du Nouveau Testament, en particulier depuis l'événement de la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il demeure dans tous les saints qui ont reçu l'effacement des péchés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Par conséquent, après l'œuvre de la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, tous les saints qui ont entendu et cru à l'évangile de la vérité et ont reçu l'effacement des péchés peuvent recevoir l'habitation du Saint-Esprit, Actes chapitre 2 verset 38. En fait, l'apôtre Pierre entra dans la maison de Corneille, un païen et centurion, et rendit témoignage du baptême de Jésus-Christ et de son sang versé sur la croix. À ce moment-là, il vit le Saint-Esprit descendre sur tous ceux qui écoutaient la parole, Actes chapitre 10 verset 34 à 45. Cela est la preuve que le Saint-Esprit est donné comme un don dès l'instant où l'on entend et croit à l'évangile du baptême et du sang de Jésus. Ainsi, dans l'ère du Nouveau Testament, Dieu fait en sorte que tous les saints qui ont reçu l'effacement des péchés par l'évangile de la vérité reçoivent l'habitation du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent suivre le Seigneur. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament était l'Esprit qui nous conduisait à Jésus-Christ, tandis que dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit témoigne de la justice de Dieu et la garantie. La justice de Dieu, c'est que le baptême que Jésus a reçu et son sang versé sur la croix ont effacé tous les péchés de l'humanité. Le Saint-Esprit garantit l'évangile du salut accompli par Jésus et aide chacun à y croire. Question 10. Je passais des jours tristes après avoir été diagnostiqué d'un cancer de l'estomac, une maladie incurable, par un médecin. Puis un jour, un ami chrétien est venu me rendre visite et m'a dit que son église organisait une réunion de réveil, et que si j'y assistais, n'importe quelle maladie pouvait être guérie. Jusqu'à ce moment-là, en tant qu'athée, je ne pouvais absolument pas croire qu'une maladie pouvait être guérie par la puissance de Dieu. Le dernier jour de la réunion de réveil, à laquelle j'avais assisté à la demande insistante de mon ami, toutes les personnes malades furent appelées à s'avancer pour recevoir l'imposition des mains par le pasteur. Le pasteur m'imposa les mains et me demanda de répéter des paroles incompréhensibles, tout en me demandant si je croyais au pouvoir de guérison de Jésus-Christ. Je ne pouvais pas vraiment croire dans mon cœur, mais sans m'en rendre compte, je répondis « oui », et à ce moment-là, je ressentis quelque chose de chaud, comme une décharge électrique, qui descendit jusqu'à mes orteils, et mon corps se mit à trembler. Immédiatement, je décidai de croire au Seigneur, et après cela, une grande joie et une paix profonde entrèrent dans mon cœur et me conduisirent vers une vie nouvelle. J'ai aussi consacré toute ma vie à la prédication de l'Évangile. Je crois que tout cela s'est produit par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est dans mon cœur. N'es-tu pas d'accord? Réponse: vous avez vraiment vécu une expérience extraordinaire. Dans le christianisme, il existe de nombreux témoignages de personnes qui, comme vous, ont consacré leur vie à Dieu après avoir vécu de merveilleuses expériences de prières exaucées. Cependant, nous aimerions vous demander si cette expérience spirituelle extraordinaire peut constituer une preuve certaine que vous avez reçu le Saint-Esprit. En réalité, de nombreux chrétiens aujourd'hui répondraient « oui » à cette question. Lorsque le christianisme occidental déclinait, devenant simplement un élément culturel au sein de la prospérité de la société industrielle, le mouvement dit du Saint-Esprit a émergé, et notamment dans le tiers-monde, le christianisme a connu une croissance explosive. Dans cette dynamique, de nombreux chrétiens se sont immergés dans des mouvements charismatiques surnaturels, recherchant ardemment et mettant en priorité les expériences spirituelles. À cause de cela, ceux qui étaient capables de diriger de telles assemblées de dons spirituels fervents ont acquis une renommée mondiale en tant qu'orateurs de réveil. Beaucoup de prédicateurs ont leurs propres témoignages extraordinaires, et puisqu'ils représentaient leur foi à travers de telles expériences, les croyants ont eux aussi commencé à poursuivre une foi fondée sur l'expérience. Cependant, la Bible répond « non » à la question ci-dessus. Bien sûr, le Saint-Esprit peut nous faire expérimenter certains dons spirituels ou événements. Cependant, parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité, Jean 15 verset 26, il nous permet de recevoir le Saint-Esprit par la parole de la vérité et agit à travers elle. Le jour de la Pentecôte, Pierre, qui avaient reçu le Saint-Esprit, a témoigné avec hardiesse que le Jésus qu'ils avaient crucifié était en réalité le Christ. En entendant ce message, les Juifs eurent le cœur transpercé et demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Actes chapitre 2 versets 14 à 37. À cela, Pierre répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Actes chapitre 2 versets 38 à 39. Autrement dit, Dieu a clairement dit qu'il donne le Saint-Esprit comme un don aux justes qui ont reçu l'effacement des péchés en croyant en l'Évangile de Jésus-Christ. De cette manière, pour confirmer si le Saint-Esprit demeure dans son propre cœur, cela ne peut être vérifié qu'à travers la parole de la vérité. Avez-vous reçu l'effacement des péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ? Si c'est le cas, vous ferez l'expérience que l'habitation du Saint-Esprit a déjà eu lieu dans votre cœur. Cependant, quelle que soit l'expérience extraordinaire que vous ayez pu vivre dans le christianisme, et quels que soient les miracles que vous ayez accomplis, s'il n'y a aucune preuve de l'effacement des péchés par la parole de la vérité et qu'il y a encore du péché dans votre cœur, alors vous n'avez jamais reçu l'habitation du Saint-Esprit. De même que la lumière et les ténèbres ne peuvent coexister, le Saint-Esprit ne peut entrer dans le cœur d'un pécheur ni demeurer avec le péché. Par conséquent, la véritable habitation du Saint-Esprit ne vient qu'à ceux qui ont été parfaitement purifiés de leurs péchés, devenus blancs comme la neige, par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, Dieu a donné et permis à tous les hommes d'entendre la vérité par laquelle ils peuvent recevoir l'habitation du Saint-Esprit. Maintenant, vous aussi pouvez recevoir la véritable habitation du Saint-Esprit en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il existe d'innombrables autres questions en plus de celles que nous avons abordées jusqu'à présent, mais toutes trouvent leur réponse dans la foi en le baptême que Jésus a reçu de Jean et en le sang qu'il a versé sur la croix. Désormais, tous ceux qui croient en Jésus peuvent recevoir le Saint-Esprit que Dieu a promis de répandre dans les derniers jours, par la foi. Nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia! Ce livre contient de nombreuses informations sur le Saint-Esprit. Il vous aidera à trouver des réponses aux questions que vous vous posez. Si vous souhaitez en savoir plus précisément sur l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, veuillez consulter les volumes 1 et 2 des livres de l'auteur, qui ont été traduits dans les langues du monde entier. Livre 1, êtes-vous vrai mais ne accent aigu de nouveau doté d'esprit ? Livre 2, retournez à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu veut que vous receviez l'habitation du Saint-Esprit et que vous attendiez le Seigneur. Puissiez-vous également, comme l'auteur, recevoir l'habitation du Saint-Esprit en croyant en la parole de Dieu et en rendant gloire au Seigneur ?